Bonjour à tous, je m'appelle Yvonne Louis Carré. Je suis rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Je vous remercie de la France qui me donne l'occasion de partager avec vous mon histoire. Je vous demanderai d'être indulgent avec moi pour mon accent, pour mon français, et pour l'émotion qui pourrait me submerger à l'occasion de ces événements douloureux. Je viens d'une fratrie, une grande fratrie de 10 enfants, 5 garçons et 5 filles. Aujourd'hui, nous sommes plus que 3 sœurs. Le génocide m'a trouvé à Kigali, dans le quartier de Kimisagara, chez ma grande sœur Irène et son mari Sujiba. C'était pendant les vacances de Pâques. On était 9 personnes dans la maison. Il y avait ma sœur, ma grande sœur. Il y avait son mari, c'est leurs 2 enfants, mon frère, une cousine à mon beau-frère, la nounou et le boy de la maison, et moi-même. Moi, j'ai préféré écrire pour ne pas, pour pouvoir garder le fil des idées. Le 6 avril, nous avons mangé tranquillement et nous sommes allés nous coucher. Au milieu de la nuit, Gassana, le boy de la maison, il est venu frapper à la porte de la chambre principale. Il leur a dit qu'il attendait beaucoup de tirs d'armes à feu autour de la maison. On nous a réveillés, nous sommes sortis. Effectivement, on attendait des coups de fusil partout. Suyira, mon beau-frère, il nous a calmés et nous a demandé d'aller nous coucher tranquillement. Le 7 avril, très tôt le matin, mon beau-frère a allumé la radio et il a appris la nouvelle du crash de l'avion du président et du décès de ces derniers, le président de l'époque, Habyarimana. Il est venu nous l'annoncer dans notre chambre. On lui a ouvert. Il tremblait. Il tremblait de tout son corps. Il avait peur. Il était accompagné de ma sœur et de mon frère. À l'annonce du décès du président, moi et sa cousine, on a sauté du lit et on a dit « Oh, ça y est, les Imotanis vont pouvoir entrer dans le pays tranquillement. » Lui, il nous a regardé d'un air triste, puis il nous a dit oh, « Détrompez-vous les filles, on va nous tuer tous. » Nous sommes tous allés au salon pour pouvoir nous organiser. Nous avons écouté les radios. D'abord la radio Rwanda qui ne parlait que de cela, qui demandait aux gens de rester dans la maison. Dans leur maison, tels que la RFI, BBC, RTL, tous, ils annonçaient que le décès du président Habyarimana, on ne parlait même pas du président du Burundi. Soudila nous a demandé, mon beau-frère il s'appelait Soudila, il nous a demandé de nous préparer, de nous habiller pour pouvoir courir au cas où c'est nécessaire. Donc nous avons mis tous les habits qu'on pouvait porter sur nous. Et après, on a remarqué qu'on n'avait pas de chaussures de marche. Ils ont envoyé le boy de la maison qui s'appelait Gassana pour aller nous chercher les chaussures de marche. Et après, quand Gassana est revenu de la boutique pour nous acheter des chaussures, il avait peur, il pleurait presque. Il nous a dit qu'à la boutique où il était parti, il a entendu qu'il y avait des réunions en préparation dans le but de tuer tous les Tutsis du quartier, en commençant par mon beau-frère. On nous a distribué le peu d'argent qu'il y avait dans la maison. Et mon beau-frère nous a donner des consignes pour pouvoir nous protéger en cas de souci. Il nous a demandé de sauver notre peau, de courir comme on pouvait, de ne pas nous séparer au cas où on attendrait des tirs, de nous coucher par terre. Ce serait selon lui, le seul moyen d'y échapper. Il passait des coups de fil à gauche, à droite, il était inquiet, il nous apportait des nouvelles, telle personne vient d'être mourir, telle autre personne, ils se sont allés se cacher à l'hôtel des Mille Collines. Je me rappelle bien l'avoir entendu passer un coup de fil à un major de l'époque de l'armée de Exfar. Et en lui demandant de venir nous aider à quitter le quartier de Kimisagara. Ce major aurait promis à mon beau-frère qu'il allait nous envoyer un convoi pour nous aider à sortir de Kimisagara et rejoindre cette famille, Saint-Paul, à l'hôtel des Mille Collines. Durant la journée du 7 avril, nous sommes restés à la maison. On attendait l'arrivée du major pour nous aider à aller nous abriter quelque part. Vers 17h, Cyriac, c'était notre voisin et qui était le fils de mon beau-frère, il est venu à la maison et nous a proposé de nous cacher dans sa propre famille parce que lui était originaire de Kimisagara. Nous avons accepté. Ma sœur, ses deux enfants et la nounou sont allés, on les a conduits chez la maman de Cyriac. Mon frère et Gassana, le boy de la maison, je n'aime pas ce terme, mais c'est pour... voilà. Donc, mon frère et Gassana sont allés les cacher chez la grand-mère de Cyriac. Moi et la cousine de mon mari, de mon beau-frère, il est allé nous cacher chez ses voisins. En sortant de la maison, les gens se moquaient de nous. Ils sifflaient de partout et de toutes les maisons. Les gens sortaient pour nous regarder. Cyriac nous a conduits chez son voisin, moi et la cousine de mon beau-frère. La maman de cette famille nous a mis dans sa chambre et nous a demandé d'aller en dessous du lit. Au fur et à mesure que les heures passaient, beaucoup d'autres personnes sont venues chercher refuge dans cette maison. On a passé la nuit sur place, on attendait les coups de fusil, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirs d'armes. Le 8 avril, le matin, Cyriac est revenu accompagné de plusieurs miliciens. Il avait du sang sur lui. Il avait été torturé. Il nous a demandé de sortir, de retourner à la maison, que quelqu'un viendrait nous chercher pour nous amener à l'hôtel des Mille Collines. Comme on était au courant du coup de fil de ce dit-là au major, on n'avait aucune raison d'en douter. Arrivé à la maison, nous avons trouvé le reste de la famille. Le 8 avril, le soir, au moment où on récitait le chapelet dans notre chambre, il y a un groupe des interahamwe qui a sauté la clôture et qui est entré dans la maison. Ils ont demandé à ma sœur de leur donner tout ce qu'elle avait, argent, bijoux, radio, télévision. Ils ont pris tout et ils sont partis. Nous nous sommes réfugiés dans la petite chambre qui était dans la maison. On les entendait discuter avec ma grande sœur. Un militaire a obligé mon beau-frère à aller à la barrière. Avant de sortir de la maison, le chef militaire qui avait une arme dans la main, il s'est retourné, a pointé l'arme vers ma sœur en lui disant que la mort était imminente pour nous. Après leur départ, nous sommes retournés dans la chambre pour aussi réciter le chapelet. On a passé la nuit dans la maison, dans la peur. On ne savait pas quoi faire. Ils avaient mis une barrière devant notre entrée, ce qui nous empêchait de sortir. On attendait soit l'arrivée du major pour nous sauver, soit l'arrivée des miliciens pour nous achever. Le 9 avril, on est resté dans la maison. On savait que tous nos voisins étaient morts. Vers 17h, on a entendu 3 tirs provenant de chez notre voisin, Gratier Karabizi, qui était le journaliste. Après, on était tous armés, sont entrés dans la maison. Soudila les devançait. Ils nous ont entassés dans la salle de douche de la chambre principale. On se cachait tous derrière mon beau-frère et ma soeur. Un jeune garçon s'est mis à genoux et s'est mis à ouvrir une grenade. C'était la première fois que je voyais une grenade. Tout d'un coup, le militaire est venu en courant, lui interdisant d'utiliser la grenade parce que ça risquait de détruire la maison. Il a continué en disant que le major demande de laisser la maison intacte. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le major ne viendrait pas nous sauver. Au contraire, il était à la base de ce qui nous arrivait. On nous a conduits au salon. J'avais le petit bébé de ma soeur. En partant au salon, je suis allée le cacher dans la chambre, dans son petit berceau. Et là, un militaire m'a suivi et m'a traîné jusqu'au salon. J'ai entendu plusieurs coups de feu. Je me suis dit, ils viennent de tuer le bébé ou mon frère qui était parti se cacher dans une autre chambre. Au salon, on s'est tous mis derrière mon beau-frère et ma soeur. Ils ont tiré d'abord sur mon beau-frère et puis sur ma soeur. Deux balles m'ont touché au niveau du dos et sont sorties au niveau de l'aisselle droite. Je me suis couchée par terre en songeant aux recommandations que mon beau-frère nous avait fait plus tôt. Ma sœur est tombée sur moi. Elle a pris beaucoup de mal, et même celle qui était destinée. Après les tirs, ils sont sortis de la maison en courant. Il y avait le bébé qui pleurait. J'ai senti ma sœur sur moi. Je l'ai poussée pour me dégager. Elle m'a regardée et m'a demandé si j'étais blessée. Je lui ai répondu oui. Elle avait du sang partout. Elle m'a dit qu'elle avait soif. Je lui ai apporté de l'eau, mais elle ne pouvait pas boire. Elle m'a demandé d'aller voir son fils qui pleurait. Arrivée près du berceau, j'ai constaté que le bébé venait de mourir. En retournant au salon pour le dire à ma sœur, j'ai vu qu'elle aussi était morte. J'ai pleuré. Beaucoup pleuré, toutes les larmes de mon corps. Il y avait plein de corps, plein de sang qui coulait partout. Un petit bébé dans son berceau. Mon frère dans la chambre. La cousine de mon beau-frère est dans le couloir. Mon beau-frère, ma soeur, la nounou, la fille aînée de ma soeur, et Gassana au salon. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là à côté d'eux. Je regardais les corps. J'essayais de les couvrir, mais la nuit n'a pas tardé à tomber. J'ai fait une erreur. J'ai allumé la lumière du salon et les gens à l'extérieur se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un de vivant dans la maison. Ils sont entrés nombreux. Je me suis allongée, j'ai fait la mort. Ils ont bougé tous les corps, ils sont montés jusqu'au plafond, ils ont fouillé partout cherchant une personne encore vivante. Quand ils arrivaient à mon niveau, je faisais la mort et ils sont partis. Je suis restée encore là, couchée parmi les morts, et au milieu de la nuit, ils sont revenus. Ils ont commencé à piller tout ce qu'il y avait dans la maison. Ils enjambaient le corps pour prendre ce qui pouvait l'être. J'avais peur. Ils auraient pu me piétiner, faire tomber quelque chose sur moi, mais je suis restée silencieuse. À un certain moment, j'ai reconnu à sa tête Isito, notre voisin, il venait se servir. Je le connaissais bien. J'ai cru qu'il pouvait me venir en aide, qu'on avait de très bonnes relations. J'ai ouvert les yeux pour le regarder, je l'ai appelé, et quand il m'a vu, il a sorti une épée pour m'achever. C'est alors que dans un dernier élan de lucidité, je lui ai dit « Kizito, il y a la télévision qui est cachée dans l'armoire. » Je lui ai montré l'armoire, il s'est tourné, il a pris la télé et il est parti en hurlant. « Il y a une personne vivante, Tantine est vivante, Tantine est vivante. » Et à une fraction de seconde, ils sont revenus en courant. Ils ont touché tous les corps, ils ont bougé tous les corps. Et comme on avait peu d'argent, ils se sont rendus compte qu'on avait de l'argent. Ils se sont fouillés dans nos poches, partout. Et quand ils arrivaient à mon niveau, je faisais la morte. Ils ne se sont pas rendus que j'étais vivante. Et d'un coup, il y a une voix, j'ai entendu une voix qui disait, non, il n'y a pas de vivants, ils sont tous morts, sortez de la maison. Ils sont sortis en courant, et ils sortaient comme des fous avec des sifflets, des bruits bizarres. Après leur départ, j'étais seule dans le silence de mort. J'avais peur. Je me suis dit qu'il fallait sortir de la maison et aller chercher refuge ailleurs. Je me suis levée. J'ai trouvé des babouches et un pagne à ma sœur. Je me suis enveloppée et je suis sortie. Je suis d'abord allée chez la plus proche voisine avec qui on avait de très bonnes relations. Elle m'a vue, elle m'a reconnue. Elle a voulu m'ouvrir, mais sa fille lui a interdit d'ouvrir aux aînés. Elle m'a demandé de partir. Je suis retournée dans la maison où Cyliac m'avait trouvé refuge. 2 jours auparavant, la maman qui m'avait mis en dessous du lit était dehors. Je l'ai appelée, elle est venue vers moi, elle m'a reconnue, elle m'a demandé où était l'autre fille. Je lui ai dit que tous étaient morts à la maison. Je lui ai demandé de me protéger encore une fois. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, car ses fils étaient devenus des ignorants. Et que s'il me voyait, il me tuerait. Elle m'a donné un gobelet d'eau, et au moment où je buvais l'eau, il y a un de ses fils qui est sorti de la maison, lui demandant, « Maman, tu parles avec qui ?» Et lui, elle lui a répondu, « Je parle à moi-même, mon fils, tout en essayant de se mettre devant moi pour que ce garçon ne me voie pas. » Quand ce fils est rentré dans la maison, elle m'a dit d'aller me cacher dans l'école qui était tout près. Je suis partie dans cette école. Quelqu'un était là, peut-être un gardien. Il m'a dit qu'il y avait déjà trop de réfugiés dans les classes et qu'il n'y avait plus de place. Le monsieur m'a montré une maison en construction. Il m'a demandé d'y aller. Je suis partie dans cette maison qui était juste couverte, sans porte ni fenêtre. Quelques minutes après, d'autres personnes m'ont rejoint. On avait peur, car à ce moment-là, la journée était claire. Quelqu'un nous a alors conseillé de monter Montigali et d'aller se cacher dans la forêt. Pour ceux qui connaissent Kinsagali. Beaucoup d'entre nous sont partis en direction de la forêt. Moi, je n'ai pas pu. J'étais trop faible. J'ai réussi, tant bien que mal, à me cacher derrière un petit buisson, pas très loin. Finalement, c'était une belle cachette, car exposée en plein milieu de la ville, mais où personne n'aurait pensé à regarder. Je suis restée là toute la journée du 10, puis la nuit du 10, encore la journée du 11 et la nuit du 11. 2 jours, les roues blessées, caché derrière un tout petit buisson. Le 12 avril, au petit matin, un petit sommeil m'a pris et j'ai été réveillée par de fortes douleurs au niveau de ma blessure. Mais plus que cela, ce qui m'a réveillée, c'était un chien. Un chien errant qui essayait de lécher mes blessures. Je me suis alors dit que j'étais presque morte. Il fallait que je sorte de là. Si je voulais qu'on retrouve mon corps pour m'enterrer. Je me suis levée, j'ai fait une petite prière. Seigneur, montre-moi le chemin, va devant moi, montre-moi où aller. J'ai fait quelques pas, mais je ne savais pas où aller. J'ai eu l'idée d'aller retourner à la maison pour voir. Je suis entrée dans la maison, elle était vide de meubles. Tous les corps étaient là, par terre. Le sang était partout, ça sentait mauvais. Je n'ai pas pu tenir longtemps. J'ai dit au revoir au mien et je suis sortie. Je pensais pouvoir rejoindre une cousine à ma mère qui habitait de l'autre côté de la grande route. En approchant, j'ai vu de ces miliciens un grand homme qui était là, dansant et chantant. J'ai eu peur de passer à côté d'eux. J'ai pris un autre chemin. Je voulais aller chez mon ami, un homme qui avait plusieurs femmes et plusieurs enfants. Quand je suis arrivée chez lui, j'ai trouvé toute la maison détruite. Les coqs gisaient dans la cour et les chiens, encore eux, étaient en train de les manger. Là, j'étais vraiment à bout. Je n'avais plus de force d'avancer. Je me suis arrêtée. Il faisait matin, peut-être 6h du matin. Un des itinérants m'a vu, m'a reconnu et a appelé les autres miliciens. Et en une fraction de seconde, j'étais entourée par des dizaines de miliciens avec des machettes, des gourdins, des coupe-coupe, des couteaux, ils étaient tous armés. Certains voulaient me tuer sur le champ. D'autres disaient qu'il fallait me conduire sur la grande route où il y avait des fosses communes, où on avait commencé à entasser les cadavres. Pendant ces discussions, je reconnus un monsieur qui tenait une boutique à côté de chez nous. Et ce monsieur s'est mis à crier, il ne faut pas tuer cet enfant, il ne faut pas tuer cet enfant. Le président dit qu'il fallait tuer les garçons et les hommes et laisser les filles et les enfants. Il a même mis la radio, il a fait écouter le mot du président Sizikungao qui disait effectivement qu'il ne fallait pas tuer les femmes et les enfants. Alors je me suis dit, peut-être j'ai la chance. Monsieur s'est approché de moi. Il m'a dit qu'il allait chercher quelqu'un qui devait me sauver. Il est revenu quelques minutes après avec M. Hassan. Je connaissais bien Hassan, c'était l'ami de mon beau-frère. Hassan a eu des discussions avec des miliciens. Ils lui ont fait signer des choses. Jusqu'à aujourd'hui, Hassan ne m'a pas dit ce qu'il a donné ou ce qu'il a signé. En tout cas, moi, je l'ai vu en train de signer des choses. Ils m'ont demandé de suivre Hassan. Je l'ai suivi, il m'a conduit auprès de sa femme qui était Tutsi. Arrivé chez eux, ils m'ont lavé, j'étais couverte de sang, de boue, d'herbe. Ils m'ont habillé chaudement. Quand ils ont découvert les plaies que j'avais sur le corps, ils ont eu peur. Ils sont partis appeler un médecin burundais qui était leur voisin. Il m'a ausculté, il a regardé mes plaies en leur disant que je n'avais pas la chance de m'en sortir. J'étais anémiée, ça faisait deux jours que je saignais. Moi, j'étais la dernière année de l'école des infirmières. Je comprenais très bien ce que monsieur le médecin disait. Le médecin il est parti, il est revenu avec des médicaments. Il a donné des consignes au couple Hassan. Ils m'ont donné des médicaments et ils ont fait des pansements. Ils m'ont installée dans une chambre. Je suis restée dans cette chambre du 12 avril jusqu'au fin juin. Le 12 mai, du 12 avril au 12 mai, j'étais dans cette chambre, j'entendais qu'il y avait des Turcs, je ne savais pas que le génocide était en train de se faire dans tout le pays. J'avais cru que c'était juste un truc qui s'était fait à Timisagara, tout simplement. Donc le 12 mai, je me rappelle bien, c'était le jeudi de l'Ascension, j'ai appris qu'ils avaient découvert là où était caché Karachi, c'était notre voisin. Ils l'ont tué et ils ont tué toute la famille qu'il avait cachée. Ce jour-là, Hassan et sa femme ont eu peur. Ils ont commencé à me préparer pour aller se réfugier avec eux à Bouliga, dans la famille de Hassan. Je n'avais pas de choix. J'ai accepté de partir avec eux. Il y avait dans la famille, dans la maison de Hassan, un jeune garçon, Tutsi, de 12 ans, qu'ils hébergeaient, ou plutôt qu'ils cachaient aussi. Ce jeune garçon s'appelait David. David, un jour, il est venu dans ma chambre, il pleurait en me disant que lui aussi était Tutsi, et qu'il venait d'apprendre que toute la famille, que toute sa famille avait été tuée. Il m'a raconté que son papa avait été jeté dans les toilettes et que sa maman avait été jetée dans un trou, dans une fosse commune avec son bébé. Il me disait que tous les Tutsis étaient morts. Alors je te parle, je répète bien les mots de David, tous les Tutsis sont morts. Il se peut qu'il n'y en ait plus que trois en vie. La femme de Hassan, lui et moi. Si tu crois que je te mens, je te ferai écouter la radio. Le lendemain, quand le couple Hassan était occupé avec le bébé, David m'a amené à un poste de radio et nous avons mis la radio Mourabura. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le génocide avait lieu dans tout le pays. Le 25 mai, Hassan et sa femme sont partis. Ils ont fui Kigali. Ils sont partis dans le village de Hassan. À ce moment-là, après avoir compris que le génocide se passait partout, j'ai refusé de m'enfuir. J'ai préféré rester dans la maison avec David. Le 24 juin, les miliciens sont venus dans la maison de Hassan. Ils se sont rappelés de moi. Ils m'avaient oublié, mais ce jour-là, ils se sont rappelés de moi. Ils sont revenus. Ils nous ont demandé de sortir haut les mains. Quand ils ont vu que nous étions des enfants, ils ont décidé de nous tuer à l'arme traditionnelle. Ils m'ont blessée sur la fesse gauche. Je suis tombée presque morte. Ils sont partis en courant. David m'a traîné par terre jusque dans la maison voisine dont le propriétaire avait fui Kigali. On est resté dans cette maison jusqu'au 4 juillet quand l'armée du FPR est venue me libérer. Par la suite, j'ai tout fait pour aller au village où il y avait mes parents. J'ai demandé de l'aide à un ami, à mon beau-frère. Il a pris sa voiture avec sa femme et ses deux filles. Ils m'ont tous accompagné dans mon village, à Niaouira. C'est dans l'ancienne commune de Luka. Arrivé à Kayonza, on a vu les rescapés de mon village. Il n'était plus qu'une dizaine, sur plus de 286 Tutsis que comptait le village. C'est là que j'ai appris le café qu'avait soulevé ma famille. Maman, qui portait le bébé d'une voisine au dos, a été tuée au coup de machette. Mon frère fut le premier à être assassiné dans le village. Un de mes autres frères a été brûlé. Les deux autres ont été tués à machette et j'étais dans une fosse commune avec une trentaine d'enfants, dont mes six neveux. Ma grande sœur a été brûlée vive avec des voisins. Au mois d'août, lorsque les membres de ma famille vivant au Burundi et au Congo sont rentrés, nous sommes partis au village et nous avons enterré les corps qui gisaient à gauche et à droite, aussi bien que possible. Ainsi, entre avril et juillet 1994, pendant trois longs mois, ma vie a été souffrance. J'ai vu tous les miens mourir. Et pour la plupart, dans de longues et horribles agonies. Par deux fois, j'ai été vivement blessée. Et même si mon corps a gardé de vilaines cicatrices, je n'en suis pas morte. Je me suis longtemps demandé pourquoi. Pourquoi je ne suis pas morte avec eux? Pourquoi moi? La réponse m'est apparue évidemment, m'est apparue évidente plus tard. Il fallait que je témoigne. Je devais être avec les autres rescapés, la preuve vivante de ce qui s'est passé, s'est réellement passé. Il fallait que je parle pour que ce qui s'est passé ne s'oublie pas. L'extermination d'une famille, d'une ethnie ou d'un peuple ne doit plus jamais être une option pour la résolution d'un problème aussi épineux soit-il. Ce que j'ai vécu est très difficile. Pourtant, je voudrais terminer ce témoignage par une invitation. Je voudrais vous inviter à me suivre sur un chemin aussi difficile que ce que j'ai vécu. Pas impossible, mais surtout nécessaire. En effet, il y a quelque temps, je circulais à Bruxelles en voiture lorsque j'ai cru reconnaître quelqu'un qui marchait sur le trottoir. Une personne, un vieux de mon village, il circulait sur le trottoir le long de la chaussée. Je suis descendue de la voiture. En me rapprochant, je me suis rendu compte que c'était bien lui. Il a levé les yeux, il m'a reconnu. Pendant un bref instant, son visage s'est illuminé avant de retomber dans une profonde tristesse. Il a fondu en larmes. Je l'ai pris dans mes bras et nous avons pleuré à chaudes larmes au milieu de cette rue sans se soucier des passants. Moi, je pleurais pour les gens que j'avais perdus, pour la souffrance que j'avais vécue. Et lui, il pleurait pour les horreurs qu'il avait indirectement causées. Il n'avait pas réussi en son temps à faire attendre raison à son fils, qui était rendu responsable d'atrocités à mon village. Même s'il a fini par le renier, il reste quand même le géniteur de celui qui a ôté la vie à tous les membres de ma famille, des familles, d'amis, à qui il s'attendait, avec qui il s'attendait tellement bien. Je ne sais pas s'il pourra un jour se pardonner à lui-même. Et c'est à ça que je voulais arriver. Je voulais vous inviter à ceci. Il ne faut pas oublier, mais il faut pardonner pour avancer. Je vous remercie.